Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Des mois que nous n'avons pas fait de tour en Absurdistan. Et les nouvelles que je viens de découvrir de la CIMAD ne sont pas rassurantes du tout. Alors nous allons ensemble faire le point sur ce qui se passe chez nous à Cornebarieux.
Un rendez-vous radiophonique proposé par la CIMAD en partenariat avec Campus FM. Préparé et présenté par les intervenants et bénévoles de la CIMAD au centre de rétention de Toulouse.
Est-ce que c'est vous? Prouvez-le. Ce qui me frappe chez Grace dès notre premier contact, c'est la force tranquille qu'elle dégage. Par téléphone, elle m'explique qu'elle vient du Nigeria et qu'elle est en France depuis 3 ans. Sa demande d'asile a été refusée. Elle est hébergée dans un hôtel avec ses 2 fils de 2 ans et 8 mois. Son petit a un problème de santé, une malformation cardiaque. Ses journées sont rythmées par les soins. Un jour, le kiné. Le lendemain, l'infirmière. Les rendez-vous médicaux réguliers au CHU. Les transports. Avec le plus grand dont il faut aussi s'occuper toute la journée, c'est fatigant, c'est usant. Mais elle tient bon, jour après jour. Nous parlons de la possibilité de demander une autorisation provisoire de séjour pour accompagnant de mineurs malades. Pour l'obtenir, il faut qu'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration examine le dossier médical de l'enfant et réponde oui à deux questions. Oui, la maladie est très grave. Et oui, cet enfant ne pourrait pas être correctement soigné dans son pays d'origine. Si c'est le cas, la préfecture doit délivrer un titre de séjour. Ah oui, mais les choses ne sont pas aussi simples. D'abord, il faut prendre rendez-vous en ligne à la préfecture. Pas simple si on n'a pas accès à Internet, si on n'a pas l'habitude de s'orienter dans toutes ces pages pour aboutir à la bonne, de répondre à des questions. Et en plus, si on ne comprend pas bien le français, et parfois on a peur. Le premier rendez-vous est dans 6 semaines. Bon, on n'a pas le choix. Nous contrôlons le dossier qu'elle doit déposer. Elle a son acte de naissance, celui de ses enfants, toutes les preuves qu'elle s'occupe de son enfant, qu'elle le soigne. Mais une chose manque, son passeport est périmé. Et impossible d'en obtenir à nouveau, l'ambassade du Nigeria est fermée pour cause de Covid et ne répond même pas au téléphone. Je l'accompagne à son rendez-vous à la préfecture, mais celle-ci refuse de prendre le dossier. Sans passeport, il n'est pas sûr que Grâce soit bien Grâce. Oui, bien sûr, son acte de naissance est bien légalisé. Oui, c'est clair, elle est bien la mère de cet enfant malade. D'ailleurs, elle est venue avec les deux enfants. Oui, oui, elle réside bien ici, c'est clair. Oui, elle a son attestation d'hébergement. Oui, elle amène bien son fils à l'hôpital chez le kiné. Oui, 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 mais non, 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 madame, il vous faut un passeport ou un certificat de nationalité pour prouver que vous êtes bien Grâce. Heureusement, Grâce à encore ses parents au Nigeria. Elle leur écrit et 5 semaines plus tard, ils lui font parvenir son certificat de nationalité et 2 cartes d'étudiante qu'ils ont retrouvées dans sa chambre. Nous reprenons donc rendez-vous à la préfecture. Cette fois-ci, exceptionnellement, par mail. On a gagné 6 semaines. À ce rendez-vous, on lui prend son dossier et tous ses documents d'identité et on lui dit qu'ils vont être examinés par la police pour expertise. 15 jours plus tard, un mail de la préfecture invite Grâce à venir retirer ses documents d'identité. Est-ce que la police les a jugés authentiques? Mystère. Cela fait maintenant 3 mois que Grâce a entamé ses démarches. Encore 6 semaines plus tard, la préfecture prévient Grâce que son autorisation de séjour est accordée. Mais il manque sa preuve d'identité. Il faut donc envoyer son acte de naissance légalisé. Mais pourtant, Grâce l'a déjà montré 2 fois cet acte de naissance. Elle pourrait leur dire « Mais non, c'est pas possible, on ne peut pas téléphoner. On ne peut pas non plus venir à la préfecture s'expliquer. » Bon, alors, Grâce renvoie le document par courrier recommandé. Cela fait maintenant 4 mois et demi que Grâce a commencé ses démarches. 2 mois plus tard encore, la préfecture envoie 2 messages à Grâce. Dans l'un, elle lui dit qu'elle doit prendre rendez-vous en ligne pour venir chercher son titre de séjour. Et dans l'autre, elle dit qu'elle doit prendre rendez-vous en ligne pour venir retirer son acte de naissance. Perplexité. Vu que pour retirer son titre de séjour, il va falloir qu'elle montre son acte de naissance, on commence par prendre le 2e rendez-vous, donc 15 jours plus tard. Et ensuite, le 1er, encore 15 jours plus tard. Attention à ne pas se mélanger les pinceaux, ce ne sont pas les mêmes guichets. Cela fait maintenant 7 mois et demi que Grâce a commencé ses démarches. Ça y est, elle retire enfin son autorisation de séjour. Celle-ci n'est que pour 6 mois. Mais déjà, c'est une fenêtre qui s'ouvre enfin. Elle a l'autorisation de travailler. Elle va pouvoir commencer des démarches avec Pôle emploi, faire garder ses enfants de temps en temps pour s'inscrire à des cours de français. Est-ce que Grâce a bien prouvé qu'elle était Grâce? Pas sûr en fait. Est-ce qu'on ne va pas lui demander encore son passeport lorsqu'elle demandera à renouveler son titre? Rendez-vous dans quelques mois.
Absurdistan. Piqûre de rappel ou de l'inaltérable actualité de la question vaccinale. Il y a quelques années, un retenu en passe d'être renvoyé dans un pays d'Afrique m'avait fait une remarque qui m'avait laissé pantois et à laquelle je n'avais pas su répondre tant elle était surprenante et pourtant tellement pertinente. Puisque je dois repartir en Afrique, après plus de 10 années passées en Europe, j'aimerais que l'on me fasse les vaccins pour rentrer dans mon pays. Diantre, mais ça tombe sous le sens. Pour avoir quelquefois voyagé en Afrique de l'Ouest, je me souviens du petit carnet jaune et des vaccinations recommandées pour certaines, obligatoires pour d'autres. N'étant pas médecin, je me tourne vers le service médical du centre de rétention administrative afin de connaître leur position et leurs recommandations en la matière. La réponse fuse, de façon assez lapidaire. Les Africains sont auto-immunisés, notamment contre la fièvre jaune. Mais oui, bien sûr, comment n'y avais-je pas pensé? De la même façon que les nuages radioactifs s'arrêtent aux frontières, les moustiques qui apportent les virus et autres agents pathogènes ciblent leurs attaques en fonction de l'origine des personnes. Comment ai-je pu imaginer une seule seconde que ce défaut prophylactique répondrait à de sordides considérations financières? Tenez, par exemple, il y a quelque temps, tous ces vaccins commandés en trop pour lutter contre la grippe H1N1. L'État français en a gracieusement fait don aux étrangers des centres de rétention, piquant à tour de bras pour écouler les stocks. Donc, en gros, encore une fois, circuler, il n'y a rien à voir. J'ai mis tout cela dans un coin de ma tête quelque temps, jusqu'à ce qu'un jeune homme guinéen me fasse la même requête. Ce dernier était volontaire pour repartir dans son pays. Il avait préparé de longue date un projet culturel ambitieux et pertinent. Sa demande vaccinale ne pouvait donc pas être vue par l'administration comme dilatoire ou destinée à faire échec à une reconduite à la frontière. Il faut à ce stade préciser que ce jeune homme est un peu tatillon sur le sujet des vaccinations, puisqu'il a contracté dans sa petite enfance la poliomyélite et en a gardé des séquelles physiques. Même cause, mêmes effets. Je reprends contact avec le médecin du centre de rétention et j'obtiens instantanément et presque mot pour mot la même réponse. J'ai, vous vous en doutez, une confiance illimitée dans l'équipe médicale du centre de rétention, mais malgré tout, je décide de m'adresser au SMIT, le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Purpan, car deux avis valent mieux qu'un. Contacté par téléphone, le professeur de médecine responsable du service accepte de répondre à mes interrogations. Et tenez-vous bien, il me dit que toutes ces histoires d'auto-immunité sont des légendes tenaces et que les personnes originaires d'Afrique sont tout aussi exposées que les autres au risque de contamination. Il n'y a pas de traitement spécifique de la fièvre jaune. Le traitement vise à réduire les symptômes pour le confort du patient. La vaccination est la principale mesure préventive contre la fièvre jaune. Le vaccin est sûr, d'un prix abordable et très efficace. Une seule dose suffit à conférer une immunité durable et une protection à vie contre la maladie. Il donne en 30 jours une protection immunitaire efficace à 99% des sujets vaccinés. Voilà quelques piqûres de rappel pour ne parler que de la fièvre jaune et laisser de côté le choléra, la méningite, la polio, la coqueluche, la rougeole, la diphtérie et j'en passe. La fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë transmise par des moustiques infectés. Le terme jaune fait référence à la jaunisse présentée par certains patients. Près de 50% des personnes gravement atteintes de fièvre jaune et qui ne sont pas traitées en meurent. On estime chaque année à 200 000 le nombre de cas de fièvre jaune et à 30 000 le nombre de décès dus à cette maladie dans le monde. Le virus amarile est endémique dans les zones tropicales d'Afrique et d'Amérique latine, qui totalise une population d'1 milliard d'habitants. Le nombre de cas de fièvre jaune a progressé ces 2 dernières décennies en raison de la diminution de l'immunité de la population vis-à-vis de cette infection, de la déforestation, de l'urbanisation, des mouvements de population et du changement climatique. Enfin, il est intéressant de savoir que le coût d'un vaccin contre la fièvre jaune oscille en France entre 10 et 20 euros, alors que le coût moyen d'une expulsion s'élève à 14 000 euros. Alors, bêtise, ignorance, méchanceté. Absurdistan.
Vous êtes toujours sur Canal Sud. Merci de votre écoute.
Dans le cadre des chroniques de l'absurde, nous vous proposons d'écouter maintenant un petit exposé sur l'art qu'ont nos élites pour présenter positivement l'échec d'une des mesures mises en place par la dernière réforme du droit des personnes étrangères. Ce billet a été écrit et mis en voix par Bernard avec le concours de Léo, intervenant au CRA de Cornabarieux pour la CIMAD. Deux fringants députés, représentatifs de la classe politique issue des grandes écoles de la République, HEC, Sciences Po Paris et, avec pour l'un d'entre eux, un petit passage au King's College et à la London School of Economics, furent les rapporteurs spéciaux sur l'immigration, l'asile et l'intégration, la loi de finances 2020, annexe 28 du rapport numéro 2301. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une lecture des 53 pages de ce document, ni une analyse détaillée de celui-ci. Mais mettre en évidence la façon dont les rapporteurs ont transformé l'échec d'une politique affligeante en une brillante réussite. Confortant ainsi le législateur sur la pertinence de la réforme de la loi, ayant allongé la durée maximale de rétention de 45 à 90 jours. Pour cela, il aura suffi de présenter d'une manière biaisée les chiffres illustrant le résultat de cette politique. Ce rapport dit
« Durant le premier semestre 2019, 12 394 personnes ont été placées en CRA en métropole pour une durée moyenne de 16,9 jours. Au sein de ce contingent, 1313 personnes, soit 10,6% des personnes admises en rétention, ont été retenues plus de 45 jours. Sur ces 1313 personnes, 595 ont été retenues plus de 60 jours, 582 personnes ont été éloignées, dont 219 entre le 61e et le 90e jour de rétention. Le taux d'éloignement des personnes retenues, plus de 45 jours, s'établit à 45%, soit un total légèrement inférieur à celui de l'ensemble des personnes retenues. L'allongement de la durée de rétention produit donc des effets positifs sur le nombre d'éloignements. Les 582 éloignements réalisés n'auraient probablement pas pu avoir lieu sans l'allongement de la durée de rétention. Cette mesure a cependant fait naître de nouveaux besoins en termes d'accompagnement sanitaire, psychologique et d'occupation des personnes retenues.
Cette conclusion est glaçante, car elle pourrait donner l'idée d'augmenter à nouveau la durée de rétention pour arriver à expulser quelques personnes supplémentaires, et qu'il suffirait d'apporter des soins psychiatriques pour réduire l'impact délétère que les conditions et la durée d'enfermement ont sur les personnes retenues. Je maltraite, mais je soigne. Justifier l'efficacité de la mesure en mettant en évidence le fait que 45% des personnes retenues plus de 45 jours sont expulsées durant cette période est fallacieux, car celle-ci ne représente que 5% de la totalité des personnes retenues, et même 2% pour celles expulsées au-delà de 60 jours de rétention. En d'autres termes, les bénéfices froidement comptables de la réforme de la loi sont qu'un accroissement de 100% du temps maximum de rétention permet d'expulser 5% des personnes retenues, tout en reconnaissant les dégâts psychologiques résultant d'une telle mesure. Il est à noter que les législateurs qui ont lu ce rapport n'ont pas fait mentalement ce simple calcul de proportionnalité, le niveau CME2 6e. Ce point n'a même pas été débattu en commission, faisant la preuve de leur cynisme ou de la facilité avec laquelle ils peuvent être manipulés. Nous ne pouvons pas nous réjouir de cet échec, présenté comme succès, car, même s'ils représentent un peu moins de 11% des personnes retenues, elles ont été un peu plus de 1300 à supporter un enfermement de plus de 45 jours dans des conditions dégradantes et psychologiquement destructrices, alors qu'elles n'ont commis aucun délit.
Absurdistan. Les chroniques de l'absurde.
J'invite celles et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet à lire le rapport national 2019 sur les centres et locaux de rétention. Le rapport est disponible sur le site web de la CIMAD, lacimad.org/publication. Si vous souhaitez rejoindre l'équipe bénévole qui intervient au CRA, contactez-nous au 05 61 41 13 20 ou par mail toulouse@lacimad.org.
Contre-histoire continue, j'ai pas fini de vous faire des misères.
Du danger de la bicyclette et de la trottinette. C'est l'histoire de Souleymane. Il est parti du Mali. Il a traversé le désert. Il a aussi traversé la mer. Il est arrivé en Italie sur un bateau de fortune, sous le clair de lune, l'espoir. Il avait 15 ans. C'est l'histoire de Rosario, Il est né au Bénin, il a marché dans le sable, vogué sur l'eau, arrivé en Italie lui aussi à l'âge de 16 ans. Il est passé par la montagne, a réussi à franchir les Alpes. Souleymane est arrivé à Reims, il s'est inscrit au lycée. Son rêve de toujours, devenir électricien. BEP, bac pro, il attend les résultats, il y est presque. En attendant, il travaille à Deliveroo, dans les rues de Reims, à vélo toute la journée. Rosario est à Vichy. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il fait un apprentissage. Il travaille super bien, ses patrons veulent l'embaucher. Le département le laisse tomber. Personne ne savait qu'il pouvait faire un contrat jeune majeur. Souleymane est absorbé par sa livraison. Il pense à ses résultats. Un dimanche sur son vélo, il passe au feu orange. Pas de chance. La police était là. Arrêté, contrôlé, menotté. La préfecture décide qu'il doit quitter le territoire. Elle l'envoie à l'autre bout de la France, au centre de rétention de Toulouse. Enfermé. Un vendredi matin de fin de juillet, Rosario part sur sa trottinette rejoindre son amoureuse. Elle en a besoin pour partir au travail. Mais la police de Vichy l'interpelle. Il a grillé le feu rouge. À trottinette, oui. Direction, le centre de rétention de Toulouse. La police interpelle, la préfecture enferme, les juges confirment. Dans la France de 2021, on dirait que ça ne choque personne. Qu'importe les océans traversés, le plus grand des dangers, de Vichy à Reims, est de se déplacer en trottinette ou à bicyclette. Souleymane est finalement libéré après plus de 30 jours de privation de liberté. Il est assigné à résidence, obligé d'aller pointer au commissariat. Rosario est toujours au centre de rétention.
Absurdistan. Les chroniques de l'absurde.
Il y a des femmes et des hommes qui, pour assurer un avenir à leurs enfants, sacrifient les plus belles années de leur vie en venant travailler dans cette belle et douce France où ils sont traités comme des parias. C'est dans une petite cellule du centre de rétention administrative de Cornebarieux, sous le regard d'une caméra et éclairée par la lumière crue d'un néon, que je rencontre l'un d'entre eux. Cet homme, d'une quarantaine d'années, très mince, regard vif, va me raconter les raisons de sa venue en France et de ce que fut sa vie avant de faire l'objet d'une mesure d'expulsion et d'être privé de liberté. Arrivé en France il y a 10 ans d'une manière régulière, muni d'un contrat à durée indéterminée, suite à une demande d'introduction de salariés étrangers en France, effectuée par son employeur. A noter qu'en avril de cette année, cette procédure a été modifiée par décret, procédure qui a transféré au ministère de l'Intérieur la charge d'instruire les demandes d'autorisation de travail pour les salariés étrangers, les services du ministère du Travail n'ayant plus compétence pour cela. Étonnant, non ? La description de ce long et incertain processus en 6 étapes, qui a pour but de décourager les employeurs d'avoir recours de la main-d'œuvre étrangère, pourrait faire l'objet d'une chronique de l'absurde. Mais revenons au sujet de cette chronique. Suite à des problèmes économiques dans l'entreprise en bâtiment qu'il emploie, il lui est proposé un contrat à durée déterminée, ce qu'il accepte. C'est muni de ce nouveau contrat qu'il se présente confiant à la préfecture d'Avignon pour renouveler son titre de séjour. Il lui répondit que cela n'est pas possible avec un CDD. Et n'ayant pas des connaissances lui permettant de s'opposer à cela, il entre à partir de ce moment-là dans la situation d'un travailleur sans papier. Celui-ci doit en effet continuer à gagner sa vie pour sa famille, bien que séjournant maintenant irrégulièrement en France. Il trouve sans problème du travail en tant que plombier ou électricien, et la vie se déroule plutôt correctement, si ce n'est le cruel manque de sa famille, et particulièrement de ses enfants laissés au Maroc, et qu'il n'a pas vu depuis son départ en France. Il est fier de ses enfants qui poursuivent leurs études grâce à ce qu'il qualifie de grand sacrifice. L'aîné de 21 ans prépare un diplôme en génie climatique et les deux autres le bac. Il se sent coupable d'avoir laissé ses enfants et se rappelle le jour où il les a quittés comme étant au moment d'une grande dureté. Si un enfant n'est pas élevé avec vous, c'est uniquement un enfant biologique. Il n'a pas d'âme, me dit-il. Il regrette d'être venu car il considère maintenant qu'il a gâché 10 ans de sa vie et qu'il aurait pu construire quelque chose d'utile au Maroc. Revenir les mains menottées dans le dos, c'est pour lui humiliant et d'une indignité totale, alors qu'il considère n'avoir rien fait de mal et qu'il n'est coupable de rien, si ce n'est que d'avoir quitté ses enfants. Au bout de 30 minutes, mon entretien est interrompu par un jeune policier de la PAF, police de l'air et des frontières, qui me signifie d'un ton martial que le temps imparti était écoulé. Bien que prenant très au sérieux la mission de haute importance qui lui a été confiée, celui-ci s'est laissé convaincre de sortir de la salle pour me laisser le temps de dire dignement au revoir à cet homme. L'histoire de cette personne étrangère, participant à l'économie de notre pays, sans pour autant bénéficier d'une quelconque protection, si ce n'est de l'aide médicale d'État, et que l'on rejette d'une manière indigne au prétexte d'un séjour irrégulier, est malheureusement très banal. L'absurde réside dans le fait que si son titre de séjour avait été renouvelé sur la base du CDD, celui-ci aurait pu continuer à travailler dans un domaine où actuellement on manque de main-d'œuvre, et surtout aurait pu avoir la possibilité de conserver un lien avec sa famille. À la place de cela, on le traite comme un paria et on l'expulse avec des méthodes indignes d'un pays comme la France. D'une situation qui aurait pu être gagnant-gagnant, on n'a fait que des perdants. J'invite ceux qui en douteraient à parcourir le rapport « Perspectives des migrations internationales 2021 » de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, paru le 27 octobre. Le rapport de cette vénérable institution, qui se fait le chantre du libéralisme économique, souligne la baisse des flux migratoires en raison de la Covid-19 et fait les recommandations suivantes.
Les pouvoirs publics devraient prendre d'urgence des mesures globales et concertées pour éviter que la pandémie ne pèse durablement sur l'intégration des immigrés, ce qui aurait des conséquences économiques majeures et menacerait la cohésion sociale dans son ensemble.
Les pouvoirs publics ont plutôt choisi des mesures de désintégration des immigrés en les expulsant, choix dicté par la tenue d'un discours sécuritaire, confortant les fantasmes, plutôt que la réalité économique et autres considérations humanistes. La situation absurde dans laquelle se trouve la personne rencontrée en est l'illustration. À propos de fantasmes, ce rapport contredit celui du soi-disant coût faramineux de l'immigration. Voilà ce qui est écrit.
Dans tous les pays de l'OCDE, la contribution des immigrés sous forme d'impôts et de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays consacrent à leur protection sociale, leur santé et leur éducation.
Le migrant ne serait donc pas ce parasite social qui vit sur le dos des contribuables en profitant allègrement du système et des aides de l'État. La personne rencontrée au centre de rétention aura contribué, mais pendant 10 ans de sa vie, n'aura jamais bénéficié de l'éducation pour ses enfants, mais seulement d'une protection sociale minimale grâce à l'aide médicale de l'État.
Absurdistan. Les chroniques de l'absurde. Rétention et coronavirus, ou quand l'administration crée des clusters. Voici quelques nouvelles du centre de rétention administrative de Cornebarieux en temps de Covid. Ça paraît simple. Fermeture des frontières, gestes barrières, confinement, limitation des déplacements, on ne peut quasiment plus expulser, donc ça veut dire qu'on enferme moins. Ah non, l'administration française s'entête et continue de priver de liberté des milliers d'étrangers, sans pouvoir les expulser. Et oui, depuis le début de la pandémie, on marche sur la tête en rétention administrative, encore plus que d'habitude. Mais attention, attention, pour faire les choses bien et éviter la propagation de la pandémie, on a mis en place un protocole sanitaire infaillible dans le centre de rétention. Infaillible ? Pas si sûr. Alors accrochez-vous. Quand une personne arrive au centre de rétention, elle est placée en secteur C, la zone tampon. On lui fait faire deux tests, un antigénique et un PCR. Si l'antigénique est négatif, la personne est placée dans un autre secteur, avec d'autres personnes enfermées depuis plus longtemps. Oui, mais voilà, il arrive plutôt fréquemment que le résultat du test PCR, qui arrive bien après l'antigénique, soit positif, malgré un antigénique négatif. Vous me suivez ? Bon, dans ce cas, toutes les personnes du secteur qui sont arrivées au CRA non porteuses du virus se retrouvent qu'à contact, et parfois contaminées. Et oui, en un mois, 26 cas de coronavirus ont été détectés au sein du centre de rétention administrative de Toulouse. Parmi ces 26 personnes, 16 étaient enfermées depuis plus de 15 jours et avaient été testées négatives à leur entrée. Et oui, 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 ils ont attrapé le Covid au sein du CRA, par la faute de l'administration. Dans un lieu d'enfermement, où les mesures sanitaires sont réduites à peau de chagrin, un lieu transformé en cluster. Avec tout ce que cela implique, interdiction des visites des proches, annulation de tous les avions, inquiétudes liées à la maladie en milieu fermé. Monsieur H, par exemple, placé en rétention administrative, juste entre Noël et Nouvel An, le 27 janvier. Dès son arrivée, il explique qu'il veut repartir le plus vite possible chez lui, en Albanie. Il en a fini avec la France, trop dur. Il veut rentrer chez lui. Il a donné son passeport à l'administration pour qu'elle puisse réserver un vol au plus vite. Juste, ce qu'il voudrait, c'est ne pas être privé de liberté. Il aimerait partir tout seul, rentrer chez lui, libre. Pas possible. Le juge des libertés et de la détention ne le libère pas. Alors, il passe le réveillon au CRA, au centre de rétention, en espérant qu'un avion soit réservé rapidement par l'administration. Manque de chance, quelques jours après son arrivée, une personne enfermée avec lui est testée positive au Covid. Tout le monde qu'à contact, tout le monde testé, tout le monde en septaine, septaine qui durera un mois, car à chaque nouveau test, de nouveaux cas sont détectés. D'ailleurs, le 19 janvier, presque un mois après son arrivée, M. H est testé positif au corona, isolé dans l'isolement. Les avions réservés sont annulés, il n'y a plus d'expulsion, et pourtant, le 1er février, M. H est toujours enfermé. Un mois de rétention, un mois d'isolement pour un monsieur qui souhaitait rentrer chez lui au plus vite, peut-être pour passer les fêtes avec sa famille. Il y a M. T aussi, enfermé le 25 décembre, est libéré un mois après car il a contracté le coronavirus au sein du centre de rétention. Il faut savoir que M. T est algérien, ce qui rend sa privation de liberté d'autant plus insensée en cette période. Depuis le début du premier confinement, il y a bientôt 2 ans, les frontières de l'Algérie sont fermées. Aucune expulsion n'est possible. Cela n'a pas bougé et ne semble pas prêt de bouger. Pourtant, des centaines de personnes algériennes sont enfermées dans les centres de rétention administratifs français. L'argument de l'administration et des juges? On ne sait jamais si jamais les frontières réouvraient rapidement. Un pari, donc, dont la variable d'ajustement est tout simplement la liberté d'être humain. Pareil pour le Maroc. Le Royaume du Maroc exige désormais que ses ressortissants, lorsqu'ils sont expulsés, aient un schéma vaccinal complet. Mesures sanitaires. Mais un schéma vaccinal complet, ça prend du temps. Malgré cela, des personnes non vaccinées, qui ne pourront donc pas être renvoyées, sont enfermées au centre de rétention administratif pendant de longues semaines. Mais bon, rassurez-vous, depuis quelques jours, un nouveau protocole sanitaire a été mis en place au centre de rétention administrative. Un protocole infaillible. Infaillible ? Affaire à suivre.
C'est toujours 92.2 Canal Sud.
Absurdistan. Les chroniques de l'absurde. Aujourd'hui, nous vous donnons à entendre le témoignage de Vlad, ressortissant italien qui a passé récemment 2 jours enfermé au centre de rétention administrative de Toulouse. Nous écoutons son témoignage.
Ok, alors io sono Vlad, sono un artista di strada. Sono un ragazzo di strada, vivo in strada da tanti tanti anni.
Je suis Vlad, je suis un artiste de rue. Je suis un gars de la rue, j'habite dans la rue depuis tant et tant d'années. J'ai toujours aimé voyager. Déjà, parce que quand on n'a pas de maison, on n'est jamais loin de sa maison. Le monde entier est notre maison. Et aussi, même si on a une maison, on devrait être chez soi partout. Je n'ai jamais aimé les frontières, dirons-nous. Et donc, je voyage, je cherche à faire un peu d'art et je voyage dans le monde entier. J'essaie de vivre au jour le jour. Je suis de Moldavie. Je suis né en Moldavie, puis je suis allé en Italie. Je suis resté tellement d'années en Italie que j'ai eu la nationalité italienne. Et puis, basta, je me sens simplement un citoyen du monde. Seulement, l'État n'est pas d'accord avec cette affirmation. Je voudrais ajouter une information importante pour moi, qui est que je n'ai jamais eu de maison. C'est pourquoi je me sens partout chez moi. Si tu n'as pas de maison, ta maison, c'est tout le périmètre de la Terre.
Allora, ero a una manifestazione, c'era molto 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 casino, c'era sia la parte dei manifestanti comunque agitata, ma anche la polizia.
J'étais dans une manifestation, il y avait beaucoup d'agitation, de la part des manifestants, mais aussi du côté de la police qui était très très énervée. J'ai déjà vu plusieurs manifestations en Italie, mais la police française agissait de manière plus directe, c'était différent. Par exemple, les policiers utilisaient énormément les lacrymogènes pour éloigner les personnes. La police venait de partout. Il y avait beaucoup, beaucoup de rues bloquées par les CRS. Finalement, au milieu de tout ce chaos, ils m'ont vu lancer quelque chose. En réalité, rien de bien dangereux. Et à un moment, j'ai vu des CRS devant moi qui s'étaient postés là.
Et niente, a un certain point, io vedevo degli antisommossa davanti a me che si erano spostati. Poi a un certo punto la persona mi avvisa.
Puis à un moment, une personne m'a averti que sur ma droite, plein d'autres policiers arrivaient en courant. Donc j'ai commencé à courir, j'ai couru, mais à un moment, j'ai senti que plein de policiers se catapultaient sur moi. À ce moment, ils m'ont écrasé au sol et à partir de là, je n'ai plus rien vu.
Inizio a non vedere più niente. Loro mi prendono per le spalle. Io avevo uno zaino, quindi non so se mi hanno preso per le spalle, per le braccia, ma comunque.
Ils m'ont pris par les épaules. J'avais un sac, donc je ne sais pas s'ils m'ont pris par les épaules, par les bras, mais ils ne m'ont pas soulevé par les bras ou les coudes, en me permettant de marcher. Ils m'ont tiré à terre sur environ une cinquantaine de mètres, au milieu de toutes les fumées de lacrymogènes. Comme j'étais presque à terre, seuls mes genoux touchaient terre. Alors je me suis râpé vraiment comme un fromage. Je me suis râpé les genoux sur 50 mètres. Et en même temps, j'essayais de me couvrir le visage avec les bras. Parce qu'au-dessus de moi, à une toute petite distance, genre 10, maximum 20 cm, les lacrymogènes explosaient. Donc j'avais peur, en plus de la fumée qui était vraiment très désagréable, j'avais peur qu'une explosion de lacrymo sur mon visage me fasse exploser, ou que ça me déforme le visage ou quelque chose. Sincèrement, j'avais peur de mourir, car ils étaient réellement en train de me traîner au sol. J'avais peur de me râper complètement, ou d'une explosion de quelque chose sur ma tête, car j'étais vraiment proche du sol. Ou simplement d'être écrasé par l'agglomération des personnes autour de moi. C'était surtout des policiers, oui, tous ces policiers attroupés qui avaient des bottes anti-émeutes très lourdes, vraiment très lourdes. J'avais peur d'être écrasé, de ne pas arriver à m'en sortir, honnêtement.
O semplicemente per l'accalcarsi delle persone che erano, che fossero poliziotti, sì, dell'accalcarsi di tutti quei poliziotti in antisommossa che tra l'altro avevano degli stivali d'antisommossa, quindi molto molto pesanti e molto seri, molto pesanti. Quindi avevo paura di essere schiacciato, avevo paura di in qualche modo di non farcela, sinceramente. Poi dopo quella cinquantina di metri dove mi sono grattugiato le ginocchia, niente, sono.
Après une cinquantaine de mètres où je me suis râpé les genoux, ils m'ont apporté là, au milieu de plusieurs policiers. Ils ont commencé à parler en français, je disais que je ne comprenais pas, mais au début, ils ne croyaient pas le fait que je ne comprenais pas le français. Et alors, petit à petit, j'ai essayé d'expliquer que je ne comprenais vraiment pas et que je venais de l'Italie, que je parlais seulement italien et roumain. Ils m'ont menotté, on m'a amené, mais avant... Avant tout ça, une fille, une manifestante, m'avait donné un numéro de téléphone à appeler au cas où j'étais arrêtée. Mais en fait, après, quand ils m'ont arrêtée, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont amenée là au commissariat et ils m'ont tout pris, donc je n'avais rien, rien de rien. Ils m'ont mis dans une cellule complètement vide, sans rien m'expliquer, au début sans traducteur, sans rien, dans une cellule vide. Je ne savais rien. Ça a duré 24 heures. Puis, le jour suivant, une traductrice est arrivée, qui m'a dit que la garde à vue pouvait être prolongée pour 24 heures encore. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai passé 48 heures sans rien du tout. Je pensais au moins avoir le droit d'avoir un stylo et une feuille dans la cellule, car par exemple, en Italie, chez moi, c'est un droit. Mais non, absolument rien, le vide le plus total. Ça a été les 48 heures les plus longues de ma vie, je crois.
Senza assolutamente nulla, io pensavo di avere almeno il diritto di avere una matita e un foglio in cella, perché ad esempio da me in Italia è un diritto. E invece no, assolutamente nulla, il vuoto più totale. E quindi niente, sono state le 48 ore più lunghe della mia vita, penso.
Alla fin, ils m'ont fait sortir de cette cellule. Ils m'ont mis une combinaison anti-Covid toute blanche. Ils m'ont à nouveau menotté. J'étais complètement couvert avec seulement les yeux qui sortaient. Je suis monté dans une camionnette, menotté, et rien. Le voyage ne promettait rien de bon. Honnêtement, j'avais peur qu'ils s'arrêtent quelque part pour me tabasser, me frapper. J'avais peur qu'ils se vengent. Mais au final, ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont juste emmené au centre de rétention administrative. Et c'est là que je suis à essayer de trouver des informations sur cet endroit, savoir ce que j'ai le droit de faire et ce que je ne peux pas faire.
semplicemente portato qua e ora sono qui cercando di estrapolare un po' le informazioni su quel, piano piano su tutto quello che è questo posto, su quello che posso fare, quello che non posso fare. E questo è quanto.
Après son interpellation, Vlad a donc passé 2 jours en garde à vue, puis 2 jours au centre de rétention administrative de Toulouse. Il a été libéré au bout de 48 heures, car la juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure ayant conduit à son placement en garde à vue. À ce jour, il attend toujours son audience devant le tribunal administratif qui statuera sur son obligation de quitter le territoire français. Vlad est de nationalité italienne. En tant que ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, il a le droit de séjourner en France. Et pourtant, son cas n'est pas isolé, puisque chaque année, de nombreuses personnes européennes sont enfermées dans les centres de rétention administrative. À titre d'exemple, en 2021, 103 personnes ayant la nationalité d'un pays de l'Union européenne ont été enfermées dans le seul centre de rétention administrative de Toulouse. Ces personnes ont, par leur nationalité, le droit de séjourner en France, comme dans toute l'Union européenne. La plupart du temps, elles sont placées en centre de rétention au motif qu'elles constitueraient une menace à l'ordre public. Une notion floue et, dans la plupart des cas, comme celui de Vlad, qui n'est pas retenue ensuite par les juges. Alors, on enferme, on traumatise, on prive de liberté des personnes qui ont le droit d'être en France. Absurdistan. La justice au temps du Covid. Depuis près de 2 ans maintenant, les centres de rétention administrative vivent au rythme de la pandémie. Dès le début, la situation était pourtant claire. Les centres de rétention sont des lieux d'enfermement dans lesquels l'administration peut prononcer des mesures de privation de liberté qui doivent être les plus courtes possibles et, selon la loi, pour le temps strictement nécessaire à l'éloignement. À partir du moment où les frontières fermaient et que les expulsions étaient rendues impossibles par la situation sanitaire, les centres de rétention administrative auraient dû immédiatement fermer. Pourtant, à aucun moment cela n'a été le cas. Même au plus fort de la première vague, et alors que le monde était confiné chez lui, les pouvoirs publics n'ont pu se résigner à prendre la décision la plus simple et logique qui s'imposait. À partir du moment où on ne peut plus expulser, on ne doit plus enfermer. Les centres de rétention sont donc restés ouverts. Des personnes y ont été enfermées, parfois pendant plusieurs mois, avant d'être finalement remises en liberté. Cette décision a eu des conséquences sanitaires graves. Des clusters sont apparus, de nombreuses personnes ont contracté le virus au sein des centres de rétention administrative avant d'être remises en liberté. Cette décision a aussi provoqué des atteintes aux droits aussi inutiles qu'injustifiées. Les personnes placées en quarantaine car positives au Covid, ou tout simplement cas contact, n'ont plus le droit de recevoir de visite pendant cette période. Elles n'ont plus accès aux juges par contrainte sanitaire et voient leurs audiences jugées en visio-audience. Le magistrat se trouve dans son bureau, à côté du représentant de la préfecture et de l'avocat de la personne retenue. Cette dernière assiste à l'audience depuis le centre de rétention administrative grâce à un système de visioconférence. Nous avons pu assister à certaines de ces audiences. L'audience se déroule dans un tout petit local de quelques mètres carrés à l'intérieur du centre de rétention. 2 écrans, l'un au-dessus de l'autre, font face à la personne retenue et 2 chaises pour le public derrière. Il n'y a de place pour rien d'autre dans cet endroit. Quand la connexion est établie, l'écran du bas nous fait entrer dans le bureau de la magistrate qui fera office de salle d'audience. Au mur, une affiche du film Police. Une grande table où se tiennent la magistrate, masquée, et 2 greffières. À gauche de la table est installé le représentant de la préfecture. La magistrate ne porte pas la robe, il est totalement impossible de connaître le rôle de chacun dans cette pièce. Les avocats et interprètes, eux, n'apparaissent pas à l'écran et s'expriment hors champ, ce qui ajoute à la confusion. Dans un premier temps, les avocats demandent à pouvoir s'entretenir avec leurs clients. La magistrate fait droit et tout le monde se retire de la salle. Dans le centre de rétention administrative, la porte de la salle d'audience reste ouverte et depuis le couloir, on peut entendre tous ces échanges. Au bout de quelques minutes d'un dialogue de sourds entre l'avocat et son client, la magistrate toque à la porte en pressant l'avocat de terminer. Le bruit est incessant côté centre de rétention. La salle de visio se trouve à proximité du couloir central. Il y a beaucoup de passages, des portes qui claquent, des gens qui discutent. Il est très difficile pour nous d'entendre et de comprendre ce qui se passe dans le bureau du juge. L'audience peut commencer. La magistrate appelle la première personne retenue, une jeune brésilienne, interpellée dans un train, alors qu'elle se rendait chez des amis. Dès le début de l'échange, une coupure d'image se produit. On entendait très mal et maintenant on ne voit plus. Il faut aller chercher un policier, on raccroche et on rappelle, l'audience peut reprendre. Une discussion souvent inaudible s'engage entre le magistrat, l'avocat et le représentant de la préfecture. Parfois la magistrate s'adresse à la personne retenue, mais il est impossible de la comprendre à travers l'écran et le masque. Les retenus répètent inlassablement « je ne comprends pas ». Porte qui claque. « Pardon, je n'ai pas entendu. » Coupure de son. « C'est à moi que vous parlez ?» Au bout de quelques minutes de ce cirque, tout le monde est fatigué et a envie que ça s'arrête. « Vous avez quelque chose à ajouter, madame ?» demande la magistrate. « Oui, Porte qui claque. « Si je rentre au Brésil, je ne pourrai pas rejoindre l'Italie où réside ma famille à cause du confinement ?» La magistrate répond « Vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu. Vous souhaitez ajouter quelque chose ?»« Non, non, c'est bon, » répond la jeune brésilienne. Rire dans le couloir. Cette situation est loin d'être isolée, puisque toutes les audiences concernant la rétention administrative ont eu lieu en visio depuis le début de la crise sanitaire, et ce, au mépris des règles les plus élémentaires de la justice.
Patience, j'ai bientôt fini de faire tomber vos illusions sur Canal Sud 92.2.
Absurdistan.
Enfermé, retenu, empêché, contraint, blessé, humilié, triste, désespéré, amer. Ils sont souvent tout cela à la fois, les hommes et les femmes qui attendent dans le centre de rétention. Leur liberté d'aller et venir s'est restreinte, confisquée brutalement alors qu'ils étaient dans une file d'attente, au guichet d'une gare, dans un bus, sur le siège passager de la voiture d'un ami, sur le quai d'une station de métro, marchant sur un trottoir du quartier où ils vivent, à la sortie de l'épicerie ou de la boulangerie de ce même quartier. Peut-être était-ce en traversant la rue, en dehors des passages protégés, comme le ferait un simple Français insouciant. En l'espace de quelques minutes, tout a basculé. Les heures, les jours, les mois et les années de galère, d'espoir. Rangés dans les archives de la mémoire, les peines et les joies qui ont jalonné la route depuis le pays d'origine, les rencontres, les angoisses et surtout la peur prégnante et collante du contrôle. Avec l'arrestation et la rétention administrative, tout s'arrête et tout démarre. Rester et demeurer invisible se transforme en comment ne pas repartir. À ce stade, les choses se compliquent et s'accélèrent. Rien ne semble avoir de prise sur l'implacable volonté de l'administration de vider le territoire du plus grand nombre de personnes irrégulières. Rien ne fera dévier l'agent préfectoral de sa mission sans que l'ordre ne lui en soit expressément donné par son ministère de tutelle. Ainsi, l'agent administratif du service des étrangers d'une préfecture lambda se doit être totalement hermétique au coup d'État, comme au Mali, aux guerres, comme en Syrie, aux tremblements de terre, comme à Haïti, ou aux révolutions populaires, comme en Tunisie. La géopolitique ne doit pas faire partie de ces préoccupations impérieuses et il y a évidemment une sorte d'incompatibilité avec sa mission professionnelle.
Absurdistan.
Nettoie, cotise et pars. Cher et sénégalais, il est arrivé en France en 1997, À l'époque, c'était Monsieur Chevènement qui était ministre de l'Intérieur. C'est loin. Pour venir en France, il utilise une carte d'identité qu'un ami français lui prête. Les contrôles étant moins drastiques qu'aujourd'hui, ça passe, comme une lettre à la poste. Et le voilà sur le territoire français. Cher est venu en France pour travailler et il trouve très rapidement un emploi dans une société de nettoyage. Jusque-là, rien de bien extraordinaire, mais cela devient vite cocasse lorsqu'on sait que Cher était durant 15 ans affecté au nettoyage du commissariat central d'un arrondissement parisien. Chaque matin, il prenait son service à 6 heures, sortie des poubelles et nettoyage des bureaux du commissariat jusqu'à 10 heures. Le maigre salaire de Cher n'est viré sur son compte que le 11 de chaque mois et son logeur lui demande de régler son loyer le 5 impérativement, sans quoi, pas de chambre. 15 ans durant, Cher dort donc, et cela 5 nuits par mois, dans le local à balais du commissariat. Il pousse les balais et les produits d'entretien dans un coin et il installe son matelas. 15 ans durant, il cotise à la sécurité sociale sans être jamais malade, et à la caisse de retraite, à fond perdu. Il y a quelques jours, Cher est venu passer quelques congés avec sa compagne résidente à Périgueux. Ils aimeraient bien se marier et vivre ensemble. Il se rend à la préfecture, car il en a assez de vivre sous l'identité d'un autre. Il raconte son histoire au fonctionnaire au guichet, qui lui dit qu'il doit repartir au Sénégal pour revenir avec un visa. Et l'invite en attendant à quitter rapidement les lieux, sans quoi il sera contraint de le faire interpeller. Il prend la décision de rentrer à Paris en train pour se faire établir son passeport par les autorités consulaires de son pays. Mais son voyage s'arrête à la gare de Bordeaux, où des fonctionnaires de police le contrôlent. Il avait oublié sa carte d'identité. Qui dit ne plus en avoir ?
J'invite celles et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur le sujet à lire le rapport national 2020 sur les centres et locaux de rétention. Le rapport est disponible sur le site web de la CIMAD, lacimad.org/publication.
La pêche aux migrants dans un entonnoir. Sadia a quitté le Maroc il y a déjà 6 ans. Elle n'a aucune envie d'y revenir. C'est en tout cas ce qu'elle m'a dit tout net en me regardant droit dans les yeux. Je me souviens avoir été surpris par la force avec laquelle elle m'a presque crié cela alors qu'auparavant, durant l'entretien, elle parlait tout bas et la tête baissée. Elle a les yeux rougis par les larmes et je suis loin d'imaginer à quel point ce petit bout de bonne femme est forte et déterminée. Comme beaucoup d'autres, elle est une migrante dont le parcours s'est brusquement arrêté sur la route 66 dans les Pyrénées-Orientales. Elle a été sommée de descendre du bus qui devait l'emmener de Barcelone à Nice. À peine le temps de récupérer ses quelques bagages et elle se retrouve en garde à vue. Ce voyage, elle l'avait pourtant déjà fait sans aucun problème plusieurs fois ces dernières années pour aller rendre visite à une de ses sœurs qui vit à Valoris. Qu'y a-t-il de plus normal que d'aller visiter une sœur qui réside juste de l'autre côté de la frontière, dans cette Europe qui dit ne plus en avoir ? La sentence tombe à l'issue de la garde à vue. Ce n'est pas en Espagne que la préfecture a choisi de la reconduire, mais au Maroc. Après avoir entretenu un temps un soupçon d'espoir par un recours au tribunal administratif, il me faut bien dire à Sadia que les dés sont jetés et qu'elle doit se préparer à partir pour le Maroc. Elle s'effondre et me raconte en détail pourquoi c'est impossible. Employée comme secrétaire de mairie dans une ville de moyenne importance, elle a été violée par 2 supérieurs hiérarchiques durant de longs mois. Rentrer maintenant dans cette ville où réside sa famille, c'est prendre le risque de se retrouver tôt ou tard face à ses bourreaux et devoir affronter la honte et le déshonneur. Elle n'a jamais parlé de cela à personne, même pas à sa sœur aînée chez qui elle habite en Espagne depuis quelques années. Elle accepte pourtant de raconter toute son histoire dans le cadre d'une demande d'asile faite depuis le centre de rétention. Il lui faut beaucoup de courage pour ouvrir et fouiller les tiroirs de sa mémoire où sont enfouies les horreurs endurées. Elle le fait pourtant et la demande est déposée. Après quelques jours, elle est auditionnée par l'OFPRA. Et encore quelques jours plus tard, elle apprend que sa demande d'asile va aboutir et qu'elle va se voir reconnaître le statut de réfugiée. Le fonctionnaire du greffe du centre de rétention a reçu cette information par téléphone de la part de l'officier de l'OFPRA ayant auditionné Sadia. Elle vient nous voir au bureau, elle est radieuse et un immense sourire illumine son visage. La joie sera de courte durée puisque le responsable de section revient sur cette officieuse promesse et refuse de signer l'obtention du statut. Sadia est à nouveau au fond du trou. Comme pour enfoncer un peu plus le clou, elle apprend qu'un départ pour Casablanca est programmé 2 jours plus tard. Le matin du départ, Sadia avale tous les médicaments laissés par les femmes passées par le centre de rétention ces dernières semaines. Elle est emmenée en urgence à l'hôpital. Lavage d'estomac et retour au centre de rétention. Nouvelle tentative juridique alors que nous n'y croyons plus, et le magistrat administratif rend une décision surprenante qui ouvre les portes du centre de rétention à Sadia. Il aura fallu un courage immense à cette jeune femme pour échapper au funeste destin de la route 66. Pour beaucoup d'autres, il en est malheureusement tout autrement. La saison de pêche aux migrants dans l'entonnoir du 66, petit passage étroit entre Pyrénées et Méditerranée, ne ferme jamais.
Absurdistan. Les chroniques de l'absurde. Ainsi s'achève le billet radiophonique de nos voyages en Absurdistan, pays abracadabrantesque et désespérant que nous vous ferons visiter régulièrement au travers des témoignages de nos visites de personnes retenues, ainsi que de points d'information générales sur ce système et sur la vie au CRA de Cornebarieux. À bientôt.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute. chante les députés, on appelle au dialogue de souris, ça chante et ça caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette pioule, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.